Bonsoir. Donc, le titre de cette intervention est « Le conjugal, fondement du parental », qui derrière cette petite phrase, cette petite expression, est extrêmement provocatrice dans notre société dite postmoderne. Et je voudrais poser cette question, étudier cette question, non pas in abstracto, mais à l'intérieur même du contexte de notre société. Et donc, l'idée, c'est de voir ensemble comment la conjugalité fonde la parenté. Mais je vais l'aborder sous un angle un petit peu particulier, qui est donc non pas une étude de ce que la tradition catholique enseigne depuis, et puis aussi la philosophie enseigne depuis très longtemps, mais à partir de la remise en question radicale à laquelle nous assistons aujourd'hui, en 2016, et puis déjà depuis plusieurs années. Et je vais essayer de me tenir à un plan strictement philosophique. Ça permettra également, éventuellement, si vous le souhaitez, après, d'aborder les choses d'un point de vue théologique, donc philosophique, c'est-à-dire sans faire appel aux données de la révélation. Je demande tout de suite pardon à ceux qui ont déjà suivi le cours l'année passée sur les familles, la famille dans la Bible. Il y aura beaucoup d'éléments qui sont repris lors d'une intervention que j'avais faite à ce sujet-là à ce moment. Donc, en guise d'introduction, je vous propose de plonger dans la réalité quotidienne dès que vous sortez ici de l'IET ou même à l'intérieur même de l'IET, telle qu'elle est décrite par l'Instrumentum Laboris du secrétaire général du synode des évêques, pour la fin, hein, vous vous souvenez de ce fameux synode pour les évêques sur plusieurs années. Je l'utilise parce que ça décrit bien les situations. Aujourd'hui se présentent des situations inédites jusqu'à ces dernières années, depuis la diffusion des couples en union libre, qui ne se marient pas, et parfois on exclut même l'idée, jusqu'aux unions entre des personnes du même sexe, auxquelles il est souvent consenti d'adopter des enfants. Donc c'est écrit en 2014. Parmi les nombreuses situations nouvelles qui réclament l'attention et l'engagement pastoral de l'Église, il suffira de rappeler les familles monoparentales, la culture du non-engagement et de la présupposée instabilité du lien, la reformulation de l'idée même de famille, le pluralisme relativiste dans la conception du mariage. Pour moi, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup au pluralisme, mais le pluralisme n'est pas identifié au relativisme. Aujourd'hui, pluralisme et relativisme ont tendance à s'identifier. On dit, si on veut être pluraliste, il faut être relativiste. Moi, je serais prêt à te soutenir, mais ce n'est pas l'objectif de la conférence aujourd'hui, mais je serais prêt à soutenir que le relativisme, à terme, fait exploser le véritable pluralisme. Bon, mais voilà, je livre ça à votre réflexion. Donc, la culture du non-engagement, la reformulation de l'idée même de mariage, le pluralisme relativiste dans la conception du mariage, l'influence des médias sur la culture populaire pour la conception des noces et de la vie familiale. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui regardent des séries, mais vous voyez bien que dans ces séries, il y a d'ailleurs un doctorat qui a été fait en Espagne sur l'influence au niveau sociologique des séries sur la conception même, séries télévisées, sur la conception même du mariage. Les courants de pensée qui inspirent les propositions législatives qui dévaluent la permanence et la fidélité du pacte matrimonial. Fin de ces citations. Alors, toutes ces différentes situations inédites, je voudrais essayer d'en percevoir avec vous quelques, pour reprendre de nouveau une expression du document, quelques éléments communs qui caractérisent ces nouvelles configurations familiales. Alors, à cet effet, je vais utiliser un vocabulaire qui n'est pas le mien, quand je suis dans une église, je n'utilise pas ce genre de vocabulaire-là. Mais je, voilà, ayant lu les auteurs, etc., j'utilise un vocabulaire qui implique souvent un glissement de sens, dont je suis plus ou moins conscient. Mais bon. Et c'est pour ça que je utiliserai parfois le conditionnel pour le marquer. Alors, dans un premier temps, je vous propose, c'est le premier point, la description. Pour pouvoir voir clair, essayons de commencer par une certaine description. Alors, toutes ces situations familiales que l'on pourrait mettre sous l'étiquette famille postmoderne, hein, on se demande la question, qu'est-ce que ça veut dire, la famille postmoderne, hein, ça. En fait, ce sont des situations différentes. Se présentent comme le résultat d'une déconstruction critique et d'une libre reconstruction de la boîte familiale traditionnelle. Au gré des projets individuels et sociaux, elles entendent réinventer la constitution et l'articulation des liens, des rôles, des sexes et des générations, promouvant au maximum les valeurs d'autonomie créative, de choix, dans le sens ultra-libéral du terme. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point les conceptions post-modernes de la famille sont liées à une idéologie, enfin une idéologie, à une conception ultra-libérale de l'individu. C'est à vous même à vous en faire une idée, hein, donc vous verrez... je pense que ça pourrait être un des fruits de la réflexion aussi, c'est le lien entre l'ultra-libéralisme et ses conceptions post-modernes, qu'elles soient promues par le Parti Socialiste ou le Parti Libéral, ou même le Parti Humaniste. Hein. Bon. Donc, des valeurs de développement de soi, de qualité relationnelle, d'épanouissement affectif et sexuel. Fonctionnant selon un mode égalitaire, démocratique et contractuel, elles opèrent une véritable révolution culturelle et anthropologique. Parce que c'est ça qui est important à voir, et je pense que le document d'Amaurice Laetitia va dans ce sens-là. Derrière ces nouvelles conceptions de la famille, il y a une véritable révolution anthropologique qui est à l'œuvre. Et qui sont considérées comme le fruit d'un progrès décisif et irréversible de l'humanité. Selon cette grille de lecture, ces nouvelles conceptions familiales sonneraient le glas des familles claniques prémodernes, c'est-à-dire un système patriarcal de tendance holistique, n'accordant guère d'espace privé aux sujets qui peinent de ce fait à advenir à eux-mêmes, soucieux de transmettre avant tout la vie et le patrimoine. Donc, si vous voulez, on va relire l'histoire de la famille, des familles, avec notre grille de lecture postmoderne. Les familles postmodernes sonneraient également le glas des familles nucléaires modernes, donc les familles claniques, et puis les familles nucléaires modernes, vous voyez tout ça dans la littérature consacrée, du moins dans leur forme conservatrice. Un homme assigné, c'est pas mon vocabulaire, à la reproduction, un homme assigné à la production, uni institutionnellement à une femme assignée à la reproduction et aux tâches domestiques. Vous vous souvenez de ces fameux trois K, hein, Kinder, Köken, and Kirk. Voilà. Cette construction socioculturelle serait fondée sur l'inégalité foncière des partenaires et de leur rôle, sur une définition naturaliste des sexes et un certain machisme hétérosexiste, sur les valeurs du devoir, du sacrifice et de la rentabilité industrielle. Fabriquée par la bourgeoisie, elle aurait été sacralisée par l'Église et diffusée comme idéale dans les classes ouvrières. Toute une relecture. Toujours selon cette lecture dite progressiste de l'histoire, les individus postmodernes disposent aujourd'hui de modalités radicalement nouvelles pour faire famille. Encore une fois, ce n'est pas mon vocabulaire, mais c'est ce qu'on entend à la radio. La modalité concubinaire hétérosexuelle, recomposée ou non, un homme et une femme vivant ensemble, sans engagement civil ou religieux, avec ou sans enfant. La modalité concubinaire homosexuelle, gay ou lesbienne, recomposée ou non, déclarée homoparentale en cas de parentalité. La modalité célibataire déclarée monoparentale en cas de parentalité. Enfin, encore deux autres que j'étudie, la modalité du mariage institutionnel, que celui-ci soit hétérosexuel ou homosexuel, qu'il fasse suite à un divorce ou non. et puis d'autres modalités encore en fonction d'autres identités de genre. À ces réalités plurielles, la dénomination famille est attribuée. Entre elles, un rapport de stricte égalité et de non-discrimination est revendiqué. Toutes les familles se valent. D'ailleurs, quand vous entendez dans le vocabulaire diffus, on ne parle plus de la famille, on parle des familles. Il ne faut pas se tromper, il s'agit pas, c'est sûr que chaque famille est unique. Ma famille, la vôtre, etc. Voilà, bon, celle d'Abraham, celle de Jacob, ce sont des familles qui sont chacune uniques, d'accord ? On est d'accord, on parle des familles. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une définition plus radicale de ce que c'est qu'une famille. Il y a deux différents modèles familiaux. Donc, à toutes ces réalités plurielles, la dénomination famille est attribuée. Dans le cadre de ce soir, dans ces quelques minutes qui nous sont consacrées, je vais me limiter à considérer quatre formes principales de ces divers partenariats familiaux. Donc les familles dites monoparentales, homoparentales, donc monoparentales, homoparentales, concubinaires et recomposées après divorce. Il y en aurait encore d'autres, mais ce sont les principales, les autres étant pour l'instant un peu trop transgressives, mais qui viendront. Parce qu'il y a des politiques qui sont prévues à cet effet. Alors, je passe à mon point 2. Donc, la question que je me suis posée est la suivante. Mais derrière toute cette pluralité, on a l'impression d'une constellation avec plein de créativité, d'inventivité, de différences, c'est extraordinaire, d'accord ? Derrière cette multiplicité, est-ce qu'il n'y aurait pas un ou l'autre dénominateur commun ? Oui ? Pour essayer de comprendre philosophiquement ce qui se joue là-dedans. Alors, à y regarder de près, ces quatre types de familles, mettez famille entre guillemets, possèdent au moins deux points communs liés l'un à l'autre. Voilà les dénominateurs communs. Je ne suis pas ici dans le jugement moral, je suis simplement dans la description philosophique des réalités désignées par ces termes. D'accord ? Tout d'abord, ces différentes configurations mettent en crise de différentes manières l'alliance conjugale entre un homme et une femme sur laquelle est bâtie la famille dite clanique et la famille dite nucléaire. Ces différentes configurations ont comme point commun de remettre en question le conjugal comme fondement du parental, comme fondement de la famille. Elles appauvrissent radicalement cette alliance, la précarisent, la décomposent, la modifie substantiellement, la travestisse, la dénature, ou en ignore l'existence. Ça va ? C'est très important, je ne me situe pas au niveau du jugement de valeur. C'est vrai que quand j'utilise le mot dénaturé, c'est au sens philosophique du terme. Donc, change de nature, le lien conjugal. Nous ne voulons en aucun cas porter une quelconque jugement sur les personnes qui vivent dans ces configurations. Mais en analysant les structures qu'elles ont choisi d'adopter, force est de constater une spécificité objective, commune, en deçà même d'une grande diversité. L'absence d'un réel lien matrimonial, assorti ou non, de sa transformation en une autre réalité. Vous pouvez critiquer ça, mais réfléchissez, prenez ça comme grille d'analyse. Dans de telles conditions, le lien parental apparaît comme primordial. Je cite ici Michel Fournier, La parenté réinventée. Alors que l'amour conjugal tend à devenir un investissement à court ou à moyen terme, c'est Martine Fournier, pardon. Martine. Alors que l'amour conjugal tend à devenir un investissement à court ou à moyen terme, le long terme se déplace sur les relations parents-enfants. Que ses parents soient divorcés, séparés ou ensemble, l'enfant a pris une place première dans la mesure où le lien de filiation reste, lui, indissoluble. Le lien parental a pris le pas sur le lien conjugal. Fin de citation. Selon Irène Théry, qui n'est pas dans la tradition catholique, Ce demi-siècle identifie la famille à partir de l'enfant et non plus à partir du couple ou de ce qui en tient lieu. On assiste à un transfert de l'indissolubilité du mariage vers la filiation. Aujourd'hui, écrit Xavier Lacroix, ce serait la filiation qui ferait famille. Fonder une famille, ce serait donner naissance à un enfant, le reconnaître, lui donner un nom. Désormais, c'est à l'enfant qu'il revient d'assurer la durabilité du lien entre les adultes, de les engendrer en quelque sorte à leur relation, de garantir la cohésion familiale. Et là, je me permets de poser un petit jugement, peut-être psychologique, tâche qui est redoutable et épuisante pour ces jeunes épaules. J'ai beaucoup travaillé sur la question des enfants dans les cas de divorce. J'étais frappé de voir à quel point ils se sentaient investis d'une tâche très forte vis-à-vis de leurs parents. Donc, je résume après la description, une certaine analyse, en disant il y a deux points, en fait, de commun entre ces nouvelles configurations. En fait, c'est assez simple. Hein. On présente ça souvent comme quelque chose de très complexe, mais en fait, c'est assez simple. Les deux points sont les suivants. Le premier, c'est que ce n'est plus le conjugal qui fonde vraiment la famille. Et par conséquent, c'est une conséquence, c'est le parental qui tend à fonder la famille. D'accord ? Le lien à l'enfant. Je passe à mon point 3. Déconstruction et reconstruction. Ainsi, l'archipel familial postmoderne s'articule-t-il d'abord autour du lien à l'enfant, ensuite autour du lien au partenaire de vie. Comment en est-on arrivé à cette inversion dans les relations familiales ? Parce qu'il s'agit véritablement d'une inversion par rapport à ce que nous avons connu depuis des millénaires et des millénaires. Encore que cette affirmation devrait être vérifiée. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la culture occidentale est puissamment marquée par une dialectique de déliaison, de déconstruction, de dissociation, d'atomisation, d'individualisation. Je parlais de libéralisme et d'ultralibéralisme. De démontage et de remontage, de recombinaison, de réassemblage et de reconstruction. Le modèle notamment des techniques et des sciences, c'est extraordinaire, hein. Quand j'étais enfant, j'ai reçu du Lego, on déconstruisait puis on reconstruisait après. Hein. On passait du vaisseau spatial à une base marine et puis on allait à une auberge, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, un château fort. Hein, voilà. Donc c'est une logique assez technique. Dans un premier temps, le lien matrimonial... Il faut essayer de me suivre ici. Hein. Le lien matrimonial d'un côté et le lien parental de l'autre sont dissociés, sont isolés. Ils suivent, affirme-t-on, des trajectoires indépendantes et sont combinables selon les désirs des individus. Ainsi, la filiation n'apparaît plus comme fondamentalement liée à l'alliance conjugale. Je voudrais vous renvoyer, j'ai vu un documentaire italien, je ne sais pas s'il est traduit en français, La teoria suedese dell'amore. Vous pouvez voir ça sur streaming, il faut un peu chercher parce que bon, c'est en italien, c'est vraiment ça. Donc le modèle suédois qui a été mis en œuvre depuis 40 ans, avec dans les lois, c'est vraiment l'idée que l'individu est purement autonome, prenant comme modèle l'adulte, avec la difficulté en fait fondamentalement de penser les deux différences fondamentales sur lesquelles sont basées depuis des millénaires toutes les sociétés, à savoir la différence des générations d'une part et la différence des sexes de l'autre part. Ce sont ces deux différences-là qui sont remises en question. Donc d'un côté vous avez première déconstruction, le parental et le conjugal. Et chacune de ces deux réalités va être à son tour déconstruite. Chacun de leur côté. La conjugalité ne désigne plus nécessairement, dit-on, l'alliance d'un homme et d'une femme, constituant entre eux une alliance, une communauté de toute la vie ordonnée au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Non, ce type de lien est qualifié de bourgeois, classique, conservateur, naturaliste. Et il n'offrirait qu'une expression particulière d'une conjugalité qui serait par nature plurielle. D'autres liens matrimoniaux entre adultes consentants seraient possibles, comme par exemple se nouer entre partenaires de sexe identique, ou même entre plus de deux partenaires. On est dans cette logique-là. Hein. Ne croyez pas que c'est de... Hein, on étudie ça aussi au niveau législatif. Il y a eu des questions de pluriparentalité, trois parents pour un enfant. En d'autres termes, le lien conjugal est démonté et librement remonté. Parallèlement, hein, donc ça c'est le lien conjugal, le lien parental, hein, la paternité et la maternité subissent elles aussi un travail de déconstruction. En fait, ça paraît complexe, mais c'est très simple. Il y a une sorte de mécanisme, si vous voulez, de logique, hein, derrière toutes ces prises de position qui peuvent paraître parfois stupéfiantes. Mais une fois qu'on les met ensemble, c'est logique. Hein. Je pense que le cœur de l'histoire, c'est une conception ultralibérale de la personne. On pourra revenir. Enfin, de l'individu. Que cet ultralibéralisme, encore une fois, soit de gauche ou de droite. Hein. Parce qu'il y a une forme de le collectivisme de gauche finalement n'est qu'une association d'individus qui pensent, qui a du mal à penser le lien, d'accord. Pour poser la question en termes aristotéliciens, est-ce qu'on croit vraiment que l'individu humain est un être essentiellement social ou non, hein? La théorie suédoise de l'amour répond clairement non, hein? Si vous voyez le documentaire, bon, évidemment, ce sont des journalistes, etc., il faut critiquer, etc., mais ouais. Donc, la paternité, la maternité sont déconstruites, chacune de leur côté. Elles sont considérées principalement comme des rôles, un mot qu'on entend souvent, complexes, disséquables en plusieurs éléments autonomes, et recombinable au gré des besoins et des volontés. Désormais, certains parlent de coparentalité, de pluriparentalité, c'est-à-dire de fonctions parentales qui peuvent être portées par divers acteurs indépendants. Alors, j'avais discuté de cette question-là avec le docteur Streuf, qui donne cours ici. Il me dit, mais oui, mais comme psychiatre, qui est psychiatre, il me dit, oui, mais moi, comme psychiatre, parfois, dans des situations d'urgence, il faut que je trouve des différents acteurs qui peuvent remplir différentes fonctions pour les enfants. Bien sûr, sans doute que c'est un langage qui, en termes de psychiatrique, ou de personnes qui ont souci des enfants, etc., qui trouvent des personnes relais. Mais ériger cela en modèle est une autre chose, d'accord. La filiation est ainsi bricolée, comme mon jeu de Lego là, par les partenaires adultes avec ou sans l'aide de la biotechnologie. La biotechnologie ouvre d'autres possibilités. Comme l'observe Geneviève Delessy de Parseval, psychiatre, depuis la première fécondation in vitro en 1984 et le premier don d'ovocytes en 88, la fonction maternelle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, peut se répartir en trois femmes distinctes. La mère d'intention, qui élèvera l'enfant. La mère génétique, qui donnera l'ovocyte, si besoin est. Je vais tout de suite, je paraphrase un petit peu cet auteur. La mère d'intention, on pourrait dire les mères d'intention. Hein. Il peut y avoir plusieurs mères successives. La mère génétique, on voit que maintenant, techniquement, il est possible d'avoir du matériel biologique qui vient de plusieurs femmes. Et la mère gestative, hein, qui est préférée aujourd'hui à celle de mère porteuse. Selon cette même logique, la fonction paternelle peut être également... Fin de citation. Selon cette même logique, on peut dire la même chose pour le père. La fonction paternelle peut être répartie entre le père d'intention, qui, entre parenthèses, si on va au bout de la logique, ne devrait pas nécessairement être un homme. Non ? L'important, c'est de remplir la fonction paternelle, ou ce qu'on décrit comme la fonction paternelle. Le père génétique et le père légal, qui n'apparaît plus comme indispensable, mais comme un choix parmi d'autres. L'inscription dans la société par la paterne, par le père. Ainsi aboutit-on à la composition de cocktails familiaux inédits, de nouvelles constellations ou tribus. On voit ça dans les magazines, hein, mais toujours très intéressant d'aller chez le coiffeur, pas simplement pour faire couper les cheveux, mais ça se trouve dans les journaux. Hein. Grand public, donc les gens parlent comme ça, et nous-mêmes nous pensons peut-être comme ça. Les familles mosaïques ou arc-en-ciel, rainbow families. Et notons, je veux bien dans les discussions, mais le rôle de premier plan que la théorie radicale du gender exerce dans cette entreprise. Introduisant une séparation au cœur des personnes humaines entre le biologique et le social construit, cette théorie tend à considérer les familles, entre guillemets, comme des produits culturels. De ce fait, elle relativise et marginalise la famille fondée sur la différence des sexes et sur l'ordre des générations. Alors, dans mon dernier point, pour laisser place au débat, je l'ai intitulé « À l'écoute des personnes ». C'est assez limité. Hein. Ici, j'étais dans la description. Maintenant, je voudrais, avec vous, simplement, écouter les personnes. C'est limité, évidemment, comme point de vue. Pour comprendre ce qui se joue avec la diffusion des familles dites monoparentales, homoparentales, recomposées et concubinaires, il convient de croiser les approches philosophiques et théologiques avec celles des sciences humaines comme la psychologie, la sociologie, le droit, l'économie, les sciences politiques, l'histoire. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas rester avec un seul discours. Pour ma part, ce soir, je veux me limiter à l'écoute des partenaires adultes. Je parle plutôt que des époux, je parle des partenaires adultes, ainsi que des enfants engagés dans de tels liens. Donc, là derrière, vous voyez, hein, c'est comme quand on peint, hein, il y a moyen de peindre en contraposition, si vous voulez, donc en montrant ce qui est engagé lorsque le conjugal n'est plus le fondement du parental. C'est un peu ça mon objectif. Hein. Quand vous voulez peindre quelque chose, vous pouvez, je dis n'importe quoi, un pot de lait par exemple. Hein. Vous pouvez peindre directement le pot de lait, hein, ou bien vous pouvez laisser du blanc et peindre autour, hein, de telle manière que le pot de lait apparaisse. Oui. Bien, pour mon intervention de ce soir, c'est la deuxième solution, c'est je ne peins pas le pot de lait directement le conjugal comme fondement du parental, mais je peins autour, d'accord, pour essayer de faire ressortir cette thèse de laquelle on peut discuter après. Du côté d'abord des partenaires adultes, vous voyez que j'ai évité le mot époux. Ces quatre modèles, entre guillemets, ont chacun leur coût psychique qui ne se remarque pas toujours durant les premières années de leur mise en place. Ainsi, selon Jacques Arène, jésuite, psychiatre, ce coût se reconnaît en termes de symptômes comportementaux et de souffrances intérieures. Sans doute est-il malaisé d'en estimer le prix, vu la difficulté à trouver les indicateurs objectifs et le manque d'études à grande échelle. Mais actuellement, nous pouvons, dit Jacques Arène, disposer d'un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens, non seulement d'un point de vue individuel, mais également social. Avec les mêmes réserves, une analyse analogue peut être menée sur le plan économique, social, éthique, politique et spirituel. Il y a un livre qui est paru sur le coût du non-mariage, assez intéressant, qui voit non seulement au niveau psychique, mais aussi au niveau, différents points de vue. Par ailleurs, même si elles n'osent pas toujours se l'avouer à elles-mêmes, les personnes qui bâtissent une famille post-moderne progressiste le font en référence, plus ou moins consciente, à la famille nucléaire conservatrice triangulaire. Excusez-moi, encore une fois, ce n'est pas mon vocabulaire, mais c'est-à-dire époux, épouse, enfant. Donc les familles postmodernes se construisent, hein, parce que qui dit famille ne dit pas n'importe quoi. C'est pas la même chose qu'un club de football, d'accord ? Même si c'est très sympa un club de foot. C'est-à-dire, ces familles postmodernes, progressistes, se construisent en référence à une communauté d'un homme et d'une femme unis par un lien conjugal unique, ordonné au bien des conjoints, ainsi qu'à la procréation et à l'éducation des enfants. Cette précompréhension naturelle, quand je dis naturelle, ce n'est pas uniquement au sens biologique du terme, hein, c'est au sens de nature humaine, au sens de ce que nous sommes profondément comme êtres d'esprit. Parce que c'est souvent une confusion, hein, on utilise le mot naturel, par exemple les lois naturelles, on pense que ce sont les lois biologiques. Non, je parle de la nature humaine, hein, de ce que nous sommes en profondeur comme être d'esprit. Donc, cette précompréhension naturelle est donc toujours aussi culturelle. Pour un être humain, c'est impossible de séparer le culturel du naturel. Cette précompréhension naturelle du concept de famille est toujours là, plus ou moins opérationnelle, plus ou moins consciente, plus ou moins blessée par la vie. Voilà pourquoi ces situations doivent toujours être abordées avec une infinie délicatesse. Derrière des revendications parfois virulentes se cachent en réalité de réelles souffrances, et pas seulement au niveau psychique. Ainsi en est-il pour de très nombreuses femmes qui constituent avec leur enfant des familles monoparentales à cause, concrètement, de l'abandon de leur conjoint ou de leur difficulté à élaborer un lien conjugal. Elles se trouvent bien seules pour vivre et élever leurs enfants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, avec toutes ces théories, il faut les confronter aussi à la réalité du vécu des personnes. Vous voyez, c'est quelque chose qui me semble important. Alors maintenant, du côté des enfants. De facto, l'expression « famille monoparentale », qui, entre parenthèses, pose question comme telle, hein, « monoparentale », désigne en toute grande majorité l'absence du père, que celle-ci soit accidentelle ou volontaire. Dans le document dont je parlais tout à l'heure, « La teoria suedese dell'amore », il y avait des témoignages de femmes qui volontairement mettent au monde un enfant en se faisant commander à une banque de sperme des petits tubes là, qu'elles reçoivent par la poste. Enfin, tout ça est montré dans le document. Et puis alors avec un mode d'emploi, elles déballent, etc. Et elles mettent des gants, excusez-moi d'être aussi prosaïque, mais c'est ça. Hein, elles mettent des gants en caoutchouc parce que les glaçons sont très froids dans lesquels se retrouvent les seringues. Et puis, enfin bref, voilà. Et donc elles conçoivent un enfant toute seule, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Donc, les familles monoparentales désignent de facto, en toute grande majorité, l'absence du père, que celle-ci soit accidentelle ou volontaire. Pour un enfant, cette absence est toujours une privation sans nom, et ce, à différents niveaux. Si elle est reconnue et finement accompagnée, une telle épreuve peut sans aucun doute être traversée victorieusement. À cet effet, la mère est appelée à ne pas effacer le père de l'horizon de son fils ou de sa fille, à ne pas s'imaginer être capable de combler tous les besoins de son enfant, une sorte de superpuissance maternelle, et par conséquent à renvoyer celui-ci vers des personnes relais. En d'autres termes, encore une fois, il ne s'agit évidemment pas de critiquer quiconque. Chacun fait, ça c'est ma grande devise, on fait ce qu'on peut avec ce qui nous est donné, d'accord ? Dans la situation qui est la nôtre. Et on ne peut qu'admirer profondément ces femmes célibataires qui élèvent leurs enfants avec un courage et une abnégation magnifiques, dans des conditions parfois héroïques. Mon propos ici consiste simplement à constater combien l'absence du conjoint est éprouvante pour tout le monde, pour l'enfant comme pour le parent seul. D'ailleurs, je me souviens, un jour j'avais été discuter au siège du CDH avec des personnes qui portaient la question du genre dans ce parti-là. Hein. Et alors, à la fin de la discussion, nous avons dit, voilà, maintenant c'est terminé. Profondément, vous êtes grande promotrice du gender sur beaucoup de points, très bien. Mais maintenant, vous êtes toutes les deux mamans, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre enfant, hein? Est-ce que vous souhaitez quel type de famille? Est-ce que j'ai eu droit à un très joli sourire. Vous voyez, pour ses propres enfants, elles souhaitent tous un type de famille dit traditionnel, quoi. Donc c'est important, vous voyez, parce que moi je pense que derrière cela, il y a quand même pas mal d'idéologie. Face à une idéologie, il faut qu'on retourne au réel, quoi, et qu'on écoute les personnes. C'est pour ça que la question de l'écoute et l'accompagnement des personnes me semble complètement décisive pour cette question. Donc, je ne suis pas encore en train de dire que ces personnes du CDH étaient dans l'idéologie, hein, mais c'était intéressant pour discuter de qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de ne pas avoir de papa, ou de ne pas, concrètement. Ouais. En ce qui concerne les familles homoparentales, qu'en est-il de l'adoption d'un enfant, du recours aux procréations médicalement assistées, ou même, dans un certain cas, aujourd'hui, de l'utilisation de la gestation pour autrui ? Si ça intéresse, j'ai des études qui ont été faites aux États-Unis sur cette question-là, des études scientifiques, et qui démontrent une série d'études qui ont été faussées par rapport aux enfants qui ont été adoptés, entre guillemets, qui ont été accueillis dans deux personnes de même sexe qui vivent ensemble. Selon Xavier Lacroix, la vraie question n'est pas d'abord celle du discernement éthique de l'homosexualité, ni celle de la capacité que des personnes homosexuelles ont d'aimer ou d'éduquer des enfants. C'est pas ça la question. Le désir d'éduquer et d'aimer des enfants, la capacité, elle est présente en chacun. La vraie question, c'est d'organiser légalement pour des dizaines de milliers d'enfants la privation a priori de trois biens fondamentaux. Le premier bien, une continuation entre sa conception et son éducation au cœur d'une alliance féconde entre un homme et une femme unis pour la vie. Le deuxième élément, c'est deux repères identificatoires différents, le masculin et le féminin. Le fameux droit à la différence doit s'appliquer aussi et premièrement à l'enfant. Celui-ci a le droit de recevoir un papa et une maman, et il convient de tout mettre en œuvre pour rendre ce droit effectif. Troisièmement, une généalogie claire, lisible et cohérente qui permet à l'enfant d'accueillir, d'imaginer, de penser et d'élaborer sa propre filiation. Notre grand psychologue des adolescents, Philippe Van Mermeek, qui dit combien l'adolescence est un moment où les enfants, les jeunes essayent de construire davantage encore leur filiation et ont besoin de savoir d'où ils viennent. Qui est mon père ? Qui est ma mère ? Pas simplement qui est mon père et ma mère, mais qui sont mes grands-parents ? Qui sont à l'intérieur de la famille ? Qui sont à l'extérieur de la famille ? J'insiste toujours beaucoup. Il y a des gens, ils font partie de la famille, d'autres, ils ne font pas partie de la famille. Ça peut être d'excellents amis, des gens très très proches, etc., qu'on voit plus que sa famille, mais ce n'est pas, un lien de même nature. D'accord ? Dans certains milieux, on appelle des amis proches oncle ou tante, etc. Bon, je respecte ce mode de fonctionnement. Mais personnellement, je n'y suis pas spontanément favorable. Un oncle, c'est un oncle. Une tante, c'est une tante. Et un ami, c'est un ami. Qui sont mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes ? Analogiquement, bien des enfants, c'est de l'ordre de l'analogie ici, hein, c'est pas la même chose. Bien des enfants nés sous X éprouvent la nécessité intérieure de connaître leur géniteur pour édifier leur propre identité et inscrire celle-ci dans la succession des générations. Dépossédés du récit de leur origine, ils consacrent une énergie considérable à démêler les filles de leur filiation. Non mais. C'est quelque chose qu'il faut découvrir. Hein. Si on n'a pas lu la littérature qui est consacrée, on ne peut pas imaginer à quel point c'est important. Quand on a eu la chance dans l'existence d'avoir une filiation relativement lisible et cohérente, on a du mal à imaginer pour des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là, de combien c'est quelque chose qui leur tient vitalement à cœur, hein, et qui doit être respecté. Donc. Il y a quelque chose d'erroné dans le terme homoparental, comme dans celui de monoparental et de pluriparental. La parenté est une réalité essentiellement relationnelle. En quelque sorte, elle est toujours, si vous me permettez ce pléonasme, hétéroparentale. Le père renvoie à la mère et vice-versa. En outre, la parenté est exercée par des personnes humaines concrètes et sexuées. Elle ne consiste pas d'abord dans des rôles interchangeables que les individus adultes auraient à se répartir pour un temps déterminé, même si par ailleurs, dans certaines situations, hein, j'évoquais les situations du docteur Streuve, celle des enfants en carence parentale, une telle distribution entre divers acteurs éducatifs s'avère précieuse. C'est pour ça que personnellement, comme philosophe, je parle tout le temps de parenté et pas de parentalité. Comme psychiatre, peut-être que je trouve que c'est un terme qui était intéressant, mais comme philosophe, je parle avant tout de parenté. Je préfère donc ces termes personnaliste de parenté à celui de plus fonctionnaliste de parentalité. Je préfère les termes de paternité et maternité à ceux qu'on trouve plus modernes de paternalité et de maternalité. Vous voyez, parfois, pour faire moderne, on utilise ce terme-là. La maternalité, etc. Oui. Mais il faut voir ce que tu veux dire là derrière, quand tu utilises ce vocabulaire-là. D'accord ? Et donc, c'est un glissement vers la conception de la paternité comme l'exercice d'un simple rôle. D'accord ? Troisième configuration, les familles recomposées suite à une séparation, assortie ou non d'un divorce. La composition de ces familles implique la décomposition des liens familiaux antérieurs tissés au fil des années. Normal, une famille recomposée est bâtie sur la décomposition d'une première famille. Or, en général, pas toujours, mais en général, l'enfant demeure viscéralement attaché à sa famille d'origine. Bien sûr, il peut vivre de belles choses dans sa nouvelle famille. Ainsi peut-il recevoir beaucoup d'amour, de soutien, de sécurité de la part de son parent additionnel. C'est un terme qu'on voit, hein, son parent additionnel. De son beau-père ou de sa belle-mère. Et il faut vraiment reconnaître cela, hein, il y a vraiment des beaux-parents qui sont admirables. Cependant, l'enfant gardera au fond de lui, comme gravé au fer rouge, l'échec matrimonial de ceux grâce auxquels il a vu le jour. Quatrième configuration, les familles dites concubinaires. Certains concubins sont liés par une forme ou l'autre de contrat. D'autres par rien. Et ça, c'est un des mérites du nouveau texte du pape François, de dire qu'il ne faut pas mettre tous les types de configurations dans le même sac. Enfin, c'est pas la même chose de se mettre ensemble pour quelques années et puis de se dire, ben voilà, nous, on veut vivre ensemble toute notre vie, mais on ne va pas se lier par un mariage institutionnel. D'accord ? C'est pas les mêmes... Donc certains bâtissent un projet de vie commun, d'autres non. Certains sont extrêmement fragiles et éphémères, d'autres visent la durée. Dans ces conditions, l'enfant est toujours plus ou moins insécurisé. Il a besoin de grandir à l'intérieur d'un couple stable qui s'aime pour toujours et qui inscrit son amour à l'intérieur de plus grand que lui-même, qui institutionnalise son amour. Dans un état de droit, l'institution sociale est là pour aider la vie des couples et des familles, non pour les brimer. En principe, elle n'est pas leur ennemi. En principe, l'institution n'est pas l'ennemi de la famille. Elle protège, au contraire, la sphère privée. C'est quelque chose qui est peu aperçu. L'état de droit protège en fait la sphère privée, protège la sphère familiale, à l'intérieur de laquelle se situe l'exercice de leur paternité, de leur maternité. Elle contribue à leur libre développement. A l'inverse, un couple non institutionnalisé vit objectivement dans une situation de précarité et l'État peut y intervenir beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on pense. Je veux être libre par rapport à l'État, mais en ne mariant pas, paradoxalement, l'État peut beaucoup plus facilement entrer dans ma sphère privée. Puisque je suis, comme individu, immédiatement en face à face avec l'État. D'accord ? Conclusion. Dans cette brève analyse, j'ai tenté de discerner les plus petits communs dénominateurs entre quatre familles postmodernes et d'en saisir leur logique constructiviste. J'ai tâché de me mettre à l'écoute de leurs réalités respectives telles que celles-ci sont effectivement vécues par les adultes et les enfants. Et donc, pour reprendre l'image de la peinture, essayer de montrer en creux à quel point il y a un enjeu philosophique, anthropologique et donc théologique majeur à ce que la relation conjugale, la conjugalité fonde la parentalité et enfin la parenté et pas l'inverse, oui, en type de modèle. Et par rapport à cela, on peut après réfléchir. Voilà la thèse l'analyse en tout cas que je vous propose, qui se trouve aussi dans, à sa manière, à Familiaris, dans le texte de Familiaris Consortio, où Jean-Paul II, à plusieurs reprises, insiste sur ce point-là et se trouve également dans le dernier texte d'Amoris Laetitia. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci Olivier.